Bonjour, je m'appelle Xavier Fournier, et dans Aventure Fiction, j'essaye d'aborder les comics autant que possible sous des points de vue peu attendus, au besoin même pour moi. Vous allez vite comprendre cependant qu'à l'origine, pour ce 18e épisode, je n'avais pas spécialement prévu de traiter le sujet qui vient, et que même j'aurais préféré ne pas avoir à le traiter tout court. Il y a une certaine facilité naturelle à aller chercher des sujets sur des auteurs méconnus des années 50 ou sur des épisodes oubliés qui ont pourtant compté. Il est possible aussi de regarder l'actualité et de se demander en quoi elle concerne les comics, ou bien à l'inverse, sur ce que les comics nous en disent. Ceux qui suivent déjà ce podcast savent que depuis quelques semaines, je fais référence à un épisode manquant. Eh bien, c'est celui-ci. Cette semaine, en effet, après avoir décalé la chose plusieurs fois, en regardant comment la situation évoluait, j'ai décidé de vous parler de l'Ukraine, de la Russie et des comics. Bien sûr, parler de fascicules et de héros de papier alors que l'Ukraine est envahie et que des gens tombent sous les balles, les bombes, a assurément quelque chose de dérisoire. Mais c'est aussi une manière de dire que ces gens qui tombent, ce ne sont pas que des statistiques, des numéros et des visages gommés. Ce sont aussi des gens qui, quelques semaines en arrière, allaient encore au restaurant, au café, au McDo, mais fréquentaient aussi les comic shops de Kiev. Vous allez voir également que, dans le marché des comics en Ukraine et en Russie, les choses n'ont pas toujours été aussi simples qu'on pourrait le croire. Alors bien sûr, oui, je vais vous dire qu'Aventure Fiction fonctionne grâce à vos pourboires sur Tipeee ou Paypal, mais pour l'occasion, il me semble important aussi de vous dire surtout qu'il est possible de faire des dons au bénéfice de la population ukrainienne, et je vais glisser dans la description de cet épisode le lien vers des plateformes de dons. Parce qu'une fois encore, les héros de papier, c'est bien, mais enfin là, ce sont de vraies personnes dans le besoin. Et je parle aussi bien des gens encore en Ukraine, dans les villes attaquées, que des réfugiés déplacés dans les autres pays. Sauf si vraiment vous avez fait de la spéléo ces derniers mois, loin des moyens d'information, vous savez que dans la nuit du 23 au 24 février 2022, l'armée russe a passé la frontière ukrainienne pour envahir le pays, ou en tout cas tenter de l'envahir. Passé les installations militaires, ce sont les plus grandes agglomérations de l'Ukraine qui ont été ensuite visées. Et là vous allez me dire « bon bah d'accord, mais moi je lis des comics, et je ne venais pas écouter ce podcast pour qu'on me rabâche les oreilles avec la géopolitique du moment. Il y a déjà BFM et les autres chaînes télévisées pour tourner en boucle sur le sujet. » Et c'est vrai. Et pourtant, cette situation dramatique n'est pas sans retomber dans l'univers des comics. Alors bien sûr, la chose la plus immédiate, la plus apparente, est intervenue début mars, quand les géants du cinéma américain ont décidé, en signe de protestation, d'annuler les sorties prévues sur les écrans russes de leurs blockbusters. L'américain Disney et le japonais Sony ont d'abord communiqué sur leur décision de suspendre toutes les sorties dans la Fédération russe. Warner leur a rapidement emboîté le pas, annulant la sortie là-bas du film The Batman de Matt Reeves. Et donc pas de Batman, pas de Morbius ou de Doctor Strange dans les mois et sans doute les années à venir pour la Russie. Notons aussi que la situation impacte également Universal, qu'on n'associe pas spécifiquement avec les blockbusters de super-héros ces dernières années, mais qui en Russie distribue les films de certains de ses concurrents américains. Les médias internationaux ayant largement relayé les communiqués de Disney, Sony et Warner, l'information a été reprise dans bon nombre de supports spécialisés et autres podcasts, et là-dessus je ne vous apprends probablement rien. Mais rappelons-le, et c'est important de le dire et de le répéter, les super-héros des blockbusters ne sont jamais que des produits dérivés de leur forme originale, les comics. Et je n'ai pas vu beaucoup de gens s'interroger sur ce que le conflit représentait pour la scène comics en Ukraine et en Russie. Et puis d'abord, jusqu'ici, c'était quoi la scène comics liée à ce secteur du monde ? Historiquement, les relations entre l'univers des comics américains et la Russie semblent faciles à définir. À plus forte raison si l'on remonte à la Russie soviétique. On garde le souvenir vivace de la guerre froide, et les comics étant essentiellement américains, on les imagine seulement en opposition aux soviétiques. Pourtant, les choses sont un peu plus complexes que cela. D'abord, je vous en parlais dès le premier podcast d'Aventure Fiction. Dans les années 40, il y avait quelques éditeurs de comics qui étaient eux-mêmes communistes. Et donc, en tout cas à ce moment-là, absolument pas anti-russes. Et dès le premier épisode d'Aventure Fiction, j'ai déjà évoqué dans vos oreilles le souvenir de Lev Gleason, l'éditeur du premier Daredevil, celui du Golden Age, qui distillait ses idées dans ses publications. Et puis on oublie aussi qu'à un moment de la Seconde Guerre mondiale, les USA et l'URSS ont été alliés contre Hitler. Mieux, les médias, l'opinion publique et donc les comics de l'époque vont faire preuve de beaucoup d'empathie envers la population soviétique qui souffre sous les bombes nazies. Et donc, dès 1942, on trouve de nombreux comics américains qui glorifie différentes figures soviétiques de la guerre, en particulier différentes femmes snipers, les fameuses femmes tireurs d'élite de l'armée rouge, dont la célèbre Ludmila Pavlichenko. Alors, suis pas un professionnel de la prononciation des noms russes. Je pense que je vais écorcher pas mal de noms pendant ce podcast. Ludmila Pavlinchenko, surnommée par la suite Lady Death. Et du coup, on va croiser chez DC, Marvel, Fawcett ou chez les autres des avatars de cette femme ou des autres héros et héroïnes soviétiques qui vont rencontrer des super-héros tels que Human Torch ou Captain Marvel. Et comme tout ce beau monde est alors uni contre Hitler, les super-héros américains ne manquent pas de venir en aide aux soviétiques. Alors pour ceux qui ont sous la main un exemplaire de mon livre Comics en guerre, aux éditions Histoire et Collection, il y a toute une partie consacrée justement à cette période pro-soviétique des comics. Mais le piège, sans doute, c'est que souvent, nous autres occidentaux avons tendance à penser que soviétique, c'est simplement le nom des Russes sous le régime communiste. Alors que bien entendu, l'URSS, c'est l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques, et que cela comprend donc bien d'autres pays que la seule Russie. Aussi, au début des années 40, quand les super-héros américains emboîtent le pas à des alliés soviétiques, ils aident les Russes, c'est vrai, mais ils aident déjà aussi des Ukrainiens et des ressortissants d'autres pays. D'ailleurs, la femme tireur Ludmila Pavlinchenko, elle-même, est un bon reflet de la complexité des choses. Née en Russie, elle s'est installée en Ukraine à l'âge de 14 ans, et c'est donc d'abord en défendant Kiev, puis Odessa, que cette Lady Death s'est taillée une solide réputation. Un autre exemple de la complexité des cartes nous aide aussi à comprendre les réactions d'une partie des auteurs des comics. En effet, bon nombre d'auteurs de comics de l'époque étaient des émigrés juifs de la première ou de la seconde génération, souvent originaires de l'Europe de l'Est. Par exemple, la famille maternelle de Joe Shuster, le co-créateur de Superman, était originaire de Kiev. Et donc l'un des papas de Superman a des racines ukrainiennes. J'en profite d'ailleurs au passage pour une petite parenthèse. En 2003, DC Comics publie Superman Red Son, ou la réinvention par Mark Millar et Dave Johnson de ce qui se serait passé si le vaisseau du bébé Kal-El s'était posé non pas au Kansas, mais dans l'URSS de Staline. Alors beaucoup de gens gardent de ce récit un souvenir qui ferait de Superman un russe. Mais en fait, c'est à la fois plus simple et plus compliqué que cela. Mark Millar a remplacé un contexte rural par un autre. Au lieu du Kansas américain, le vaisseau de Kal-El se pose donc en URSS, oui, mais dans une contrée qui est, elle, considérée comme le grenier à blé de l'Europe, à savoir l'Ukraine. Superman Red Son ne réinvente pas Superman en russe, mais le transpose en Ukraine, sachant que cela correspond en prime à l'ascendance d'un de ses créateurs. Fermez la parenthèse. Pour en revenir aux comics des années 40, on peut citer d'autres exemples. On garde souvent de Joe Kubert, un géant des comics, le souvenir d'un auteur d'origine polonaise, souvenir entériné par ses BD sur le ghetto de Varsovie. Sauf que Kubert est né dans un petit village nommé Jerzadziani, je m'excuse pour la prononciation, et petit village qui est à l'origine en Pologne, c'est vrai. Mais une réorganisation des frontières pendant la Seconde Guerre mondiale fait que le village est de nos jours situé en Ukraine. Et là, du coup, j'ai l'impression de présenter une émission du Dessous des Cartes sur Arte. Tout cela pour vous expliquer que dans la première partie des années 40, tout concordait pour que les comics donnent une image empathique des soviétiques. Ils étaient alors des alliés factuels des États-Unis. Ils étaient présentés comme le pot de terre luttant contre le pot de fer nazi, avec des populations souffrant de façon poignante des attaques allemandes. Et donc une partie des auteurs de comics eux-mêmes avaient des raisons de voir dans ces populations des amis, des cousins ou des grands-parents. Dans l'après-guerre, cette empathie n'est plus de mise. Non seulement l'URSS ne souffre plus sous les bombes des nazis, non seulement Staline n'est plus un allié des USA, c'est peu de le dire, et puis ces émigrés auteurs de comics dont je vous parlais, ceux qui ont encore des attaches en Europe de l'Est, voient forcément d'un œil différent ce que Staline fait à son tour subir aux populations des pays de l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. Je ne vais pas vous détailler le comportement des comics pendant la guerre froide. Cela nécessiterait au moins un ou deux podcasts, au moins. Mais on comprendra que dans les années 60, la renaissance des Marvel Comics s'est opérée à une époque où on croyait à l'imminence d'une troisième guerre mondiale contre les communistes. De facto, la plupart des premières années des titres Marvel des années 60 contiennent des allusions plus ou moins précises aux communistes et ou aux soviétiques. On prendra par exemple les premiers épisodes de Hulk ou d'Iron Man ou d'Ant-Man. Pourtant, ce sont les mêmes comics Marvel qui vont amener de façon involontaire les premiers signes d'une détente culturelle. On peut parler bien sûr de la désormais célèbre Black Widow, lancée comme une espionne soviétique, une dangereuse adversaire d'Iron Man, avant qu'elle décide de changer de camp. Black Widow fait figure de transfuge, celle qui a finalement choisi le camp du bien, les USA, contre le camp du mal, l'URSS. Pourtant, elle va tarder à être intégrée dans les rangs des Avengers, en tout cas dans les comics. Et vu sous cet angle, on pourrait penser que Marvel est moins progressiste que la série télévisée Star Trek, par exemple, qui incorpore dans son équipage le personnage de Tchekov dès 1967. Sauf que... il y a d'autres éléments à prendre en compte. En fait, à partir d'Avengers 16, en 1965, Stan Lee réorganise les rangs du groupe. Autour de Captain America, il n'y a que d'anciens super-vilains. Et on trouve donc l'archer Hawkeye, et les jumeaux Scarlet Witch et Quicksilver, qui tous ont en commun d'essayer de se racheter. Mais même si leur lien avec le Bloc de l'Est est rarement mentionné, Scarlet Witch et Quicksilver sont eux aussi des transfuges originaires de l'Europe de l'Est, dans un pays fictif nommé la Transia. Comprenez en fait la Transylvanie et donc la Roumanie, qui elle aussi, à l'époque, fait partie de l'URSS. Si vous connaissez les deux héros, Wanda et Pietro, surtout par les films, vous n'avez jamais entendu parler de la Transia. Pour vous, ces deux jumeaux sont originaires de la Sokovie, un autre pays fictif de Marvel. Mais pas de panique, la logique demeure, puisque grosso modo, la Sokovie vient se placer quelque part entre la Roumanie et l'Ukraine, sur la carte. Et donc, quand on parle de Transia ou de Sokovie, elles viennent se placer toutes les deux dans l'ex-URSS. La vraie raison qui a tenu Black Widow en dehors des Avengers dans les années 60 n'avait sans doute rien à voir avec ça. Black Widow était une femme à une époque où la plupart des auteurs de comics considéraient que c'était un rôle comme un autre, comme le leader ou l'ingénieur de la bande ou le type super fort. Et si on avait déjà une femme dans le groupe, on n'avait pas besoin d'en avoir une autre. C'est ce qui fait que Wonder Woman est restée pendant des années la seule femme dans les rangs de la Justice League. Et donc en 1965, le rôle de la seule femme des Avengers était passé à Wanda Maximoff, alias Scarlet Witch, faisant que Black Widow ne pouvait avoir qu'un rôle périphérique en dehors de l'équipe. Dans l'état, la moitié des Avengers de 1965 étaient des ressortissants exfiltrés de l'URSS. Et sans les barrières sexistes de l'époque, Black Widow aurait encore plus fait pencher la balance. La majeure partie des Avengers aurait été originaire de l'URSS. Je vous l'ai dit, on est alors dans une logique de transfuge. Wanda, Pietro et Natasha ont tous renoncé au Bloc de l'Est pour mieux adopter la manière de vivre de l'Ouest. L'intention des auteurs n'est pas d'expliquer que les soviétiques sont gentils, mais bien que les gentils sont ceux qui renoncent au soviétisme et au communisme. Il se passe cependant quelque chose d'imprévu à la longue, à mesure que ces personnages gagnent en popularité. Une situation qui s'intensifie dans les années 70, alors que l'opinion publique américaine doit digérer coup sur coup la déroute américaine au Vietnam, ou les photos de G.I. passant au napalm des enfants vietnamiens. Et puis aussi, à la même époque, le scandale du Watergate qui forcera le président Nixon à la démission. Forcément, la question de savoir qui représente le camp du bien et qui représente le camp du mal se complique. Bon nombre de super-héros américains, y compris Captain America, prennent leur distance avec les autorités politiques américaines. Et dans ces conditions, eh bien, des personnages qui viennent de l'Est, mais qui font de même, qui s'éloignent eux aussi des autorités de leur pays, eh bien, ça a quelque chose de beaucoup plus sympathique. On reste dans le registre des transfuges, mais avec beaucoup plus d'empathie. Si bien qu'à un moment, dans les années 70, pratiquement toutes les équipes de super-héros Marvel vont se découvrir de nouveaux membres venus de l'URSS. L'exception la plus marquante étant les Fantastic Four, puisque la spécificité de leur origine et de leur nom complique un peu les choses pour ajouter un membre. Mais en quelques années, vous avez Black Widow qui finalement intègre brièvement les rangs des Avengers, avant de partir fonder une autre équipe de héros, les Champions, où elle est vite rejointe par une autre soviétique, Darkstar. Et puis chez les Defenders, vous avez l'héroïne patriotique Red Guardian, qui va rester quelque temps membre de groupe, sans renoncer pourtant à son drapeau. Enfin arrive sans doute le super-héros soviétique le plus connu des comics américains, à savoir Colossus, un nouveau membre des X-Men. Et comme il se doit, Colossus a une petite sœur, qui elle intégrera en temps et en heure la classe des petits chez les X-Men, autrement dit les New Mutants. Et d'un seul coup, il y a des ex-soviétiques un peu partout chez Marvel. Alors je vous parle plus spécialement de Marvel parce qu'il faut bien voir que chez le concurrent DC Comics, à la même heure, on n'est pas aussi ouvert. Il y a bien le personnage de Negative Woman dans la série Doom Patrol, mais c'est l'exception qui confirme la règle. Chez la Justice League, il faudra attendre la seconde moitié des années 80 et le personnage de Rocket Red pour qu'un soviétique s'installe durablement dans le groupe. Et d'ailleurs, ce Rocket Red de la Justice League sera rapidement établi comme étant d'origine ukrainienne. On reste dans l'archétype du transfuge, je vous le disais, parce que bien souvent, l'arrivée de nouveaux personnages ex-soviétiques s'accompagne de l'injection d'autres créations plus radicales qui ont pour objectif de ramener les héros en URSS. C'est ainsi qu'émergeront chez Marvel les Soviets Super Soldiers, sorte de super groupe officiel obéissant aveuglément à Moscou. Si vous préférez, c'est la version soviétique des Avengers. Mais il convient de noter également que dans les années 80, on a aussi une évolution du discours qui oppose désormais la vieille URSS et l'URSS moderne. C'est-à-dire qu'on verra plusieurs super-vilains émerger, présentés comme des reliquats de la Russie stalinienne, comme par exemple KGBist, un ennemi de Batman. Il y a donc une URSS moderne, compatible avec les Avengers, les X-Men ou la Justice League, l'URSS de Colossus et de Rocket Reed, et puis l'URSS du passé, celle de KGBist ou d'autres tueurs comme Omega Red, un ennemi des X-Men, ou encore un peu plus près, un adversaire du Punisher tout simplement surnommé le Russian. Et comprenez que ce discours fait écho à un autre. Il y a deux Amériques. Celle du passé, qui a le visage de Nixon et du Vietnam. Puis vous avez aussi celle des années 80. Celle-ci se voit de façon un peu idéaliste avoir plus de choses en commun avec, finalement, la réforme du Parti communiste soviétique engagée par le président Mikhail Gorbatchev en URSS à ce moment-là. À ce sujet, on peut considérer, sous un certain angle, que le Watchmen des Anglais Alan Moore et Dave Gibbons a quelque chose d'un lapsus culturel. On y montre l'inexorabilité de la guerre entre les deux blocs, mise en déroute par une sorte de conspiration qui va sauver le plus grand nombre en sacrifiant une partie de la population, c'est vrai. Mais et dans Watchmen, on voit que cette inexorabilité de la guerre existe dans un monde où les USA ont gagné la guerre du Vietnam et où Nixon, très populaire, continue d'occuper la Maison-Blanche. L'Amérique dépeinte dans Watchmen correspond au monde d'avant par rapport à la date de sortie de cette BD. Comprenez à minima qu'une Amérique qui s'est débarrassée de Nixon et qui n'a pas gagné le Vietnam, eh bien cette Amérique-là, elle est considérée quelque part plus proche de la paix que celle de Watchmen. Depuis le début des années 2000, on voit l'émergence d'une forme de sous-genre. Alors que les comics et le cinéma ont déjà beaucoup utilisé la recette qui consiste à se demander ce que donnerait le monde si les nazis avaient gagné, différents auteurs de bandes dessinées, et pas seulement en Amérique d'ailleurs, vont essayer de renouveler la chose en s'intéressant à ce qu'on peut qualifier d'Uchronie soviétique ou d'Uchronie post-soviétique. Alors bon, il y en avait eu avant, et je me souviens en particulier d'un arc des Fantastic Four de Walt Simonson, où les Fantastiques eux-mêmes se retrouvaient dans un univers alternatif où Staline régnait toujours. Mais là, ça va devenir un petit mouvement, quelque chose de pas très massif, mais avec des productions régulières. Plusieurs comics vont se plaire à imaginer ce que donnerait un monde fantastique dans lequel l'URSS ne s'est pas effondré. Alors je vous ai déjà parlé tout à l'heure, par exemple, du Superman Red Son de Mark Millar et Dave Johnson qui transpose l'origine de Superman en Ukraine et qui change le sort du monde. Mais on peut citer d'autres comics. Dès 2000, chez Image, vous avez The Red Star de Christian Gossett qui invente une sorte d'URSS fantasmée où la magie existe. Dans cette bande dessinée, produite essentiellement sur ordinateur mais assez envoûtante, des vaisseaux soviétiques longs de plusieurs kilomètres traversent le ciel pour affronter des démons. Et à bord de ces vaisseaux, on trouve des femmes soldats qui sont en fait des sorcières. Gossett et son équipe envisagent une sorte de licence multimédia et dans les années suivantes, des projets de films ou de séries télévisées seront discutés. Mais l'inconvénient pour l'auteur, c'est que ces dernières années, il a en quelque sorte été rattrapé par les agissements en Syrie ou en Ukraine de la Russie moderne. Avec un projet qui ne se veut pas parodique, il est en effet difficile de vendre un concept de film ou de série télé où les personnages détournent les codes de la propagande soviétique à un moment où la situation dégénère à nouveau et devient imprévisible. Un autre comic book, Atomica, lancé en 2005 par Andrew Dabb et Salah Binanti, qui est par ailleurs l'agent du peintre Alex Ross, imagine lui aussi une URSS fantasmée dans laquelle un surhomme tout-puissant, qui a baigné dans le communisme, commence à avoir de sérieux doutes. Alors dit comme ça, on pourrait croire qu'il s'agit d'une redite de Superman Red Son, mais en fait, le héros d'Atomica est une créature pratiquement divine, et en un sens, dans cette série, on est plus proche de se demander ce que cela aurait donné si le Dr Manhattan, surhomme post-atomique de Watchmen, avait été soviétique. En 2016, l'éditeur Valiant, traduit en France chez Bliss Comics, lance carrément tout un grand crossover qui concerne la plupart de ses séries. Dans Divinity 3 Stalinverse, écrit par Matt Kint et dessiné par Trevor Ersin, des cosmonautes soviétiques qui ont séjourné dans l'espace en reviennent avec des pouvoirs surhumains. Et la réalité est finalement réécrite dans ce qu'on appelle le Stalinverse. Le monde entier est réinventé aux couleurs de l'URSS et la plupart des héros de Valiant Comics sont transformés en diverses versions soviétiques. D'autres sont carrément créés pour l'occasion et même si les choses rentrent dans l'ordre à la fin de la saga, Valiant va conserver certains de ses personnages comme l'héroïne Red Legend, qui est une sorte de Wonder Woman soviétique. Enfin, vous avez aussi chez d'autres éditeurs des concepts de comics dignes des films mockbusters où il s'agit de combiner deux tendances. Dans Mother Russia, lancé en 2017, le créateur Jeff McKunsey réinvoque le passé, la bataille de Stalingrad dans les années 40 et l'archétype des femmes snipers soviétiques. Sauf que dans cette version, il y a 2 millions de zombies qui attaquent Stalingrad et l'héroïne doit tout faire pour tenter de survivre. On voit que les combinaisons sont sans fin. Quand enfin, dans la réalité, l'URSS s'effondre sous son propre poids et est dissoute en décembre 1991, il existe tout un lot de héros de comics pour qui cela change la donne. Des héros de comics, oui, mais aussi des éditeurs pas totalement désintéressés. En fait, sans attendre la fin officielle de l'URSS, la détente de Gorbatchev avait commencé à simplifier les choses pour les intérêts occidentaux. Et dès 1991, on voit donc apparaître une version russophone du Mickey Mouse Magazine, lointain équivalent du journal de Mickey, diffusé dans différents pays de l'URSS. Mais le public n'est pas prêt, il n'a pas d'affect avec la souris de Disney. Et qui plus est, il n'y a pas vraiment de réseau de diffusion organisé. Et puis il y a les artistes et les éditeurs locaux qui commencent à produire leur propre BD, maintenant qu'ils n'ont plus le régime soviétique sur le dos. Si bien que pour Mickey, la concurrence est rude, et on va vite s'orienter vers quelque chose qui tient de l'almanach, sortant une à deux fois par an. La bande dessinée russophone de Mickey n'a qu'un succès d'estime. Chez Marvel aussi, on se pose la question de la nouvelle réalité russe, mais de deux façons. Il y a d'abord l'angle interne de l'univers Marvel, avec différents personnages liés à l'URSS. Et on attend de les voir se positionner. Ainsi, à l'automne 1992, Marvel sort de façon très maladroite un numéro spécial Soviet Super Soldier, qui montre la réaction de l'équipe, mais rétroactivement, et même à l'époque on peut le dire, c'est tout sauf une bonne idée. Parce que voilà une région du monde qui vient de tourner le dos au soviétisme, et Marvel s'obstine à utiliser le terme soviétique. Qui plus est, dans les rangs des soviets super-soldiers, on a le Red Guardian, à savoir la version soviétique de Captain America, et puis les mutants Ursa Major et Vanguard, respectivement l'un est capable de se transformer en ours, et l'autre a besoin d'agiter une faucille et un marteau pour canaliser son énergie mutante. Certes, le numéro spécial Soviet Super Soldier vise d'abord le public américain et n'a pas vocation à être traduit tel quel en Russie, mais il témoigne du métro de retard qu'ont les auteurs et les éditeurs de Marvel. C'est un peu comme si, pour évoquer l'Allemagne de l'après-guerre, on avait consacré un numéro spécial à des héros nommés Mister Nazi et Svatika. Niveau édition russophone, à partir des années 90, il va y avoir des tentatives d'importer différents comic books américains en Russie, mais avec des résultats très mitigés. Comme pour Mickey, le public de l'ex-URSS n'a pas beaucoup d'affect avec les super-héros américains. Pas de passé commun, sans parler de décennies de continuité à rattraper, en tout cas au début. Pendant des années, les différentes tentatives d'implanter les comic books en Russie vont faire du surplace. Comprenez que ce dernier quart de siècle, plusieurs éditeurs ont tenté d'importer en langue russe Marvel ou plus largement les comics, mais d'abord dans les premières années avec un succès très limité. Un élément extérieur va venir bouleverser tout ça. En Russie, les super-héros ont été portés finalement par la notoriété des films Marvel Studios, permettant enfin aux BD de s'y implanter durablement, et en un sens on tombe même dans l'excès inverse, puisque cela éveille beaucoup de convoitises. L'un des éditeurs russes de Marvel s'appelle Comme il faut. Alors Comme il faut, c'est écrit K-O-M-I-L-F-O, et il se lance en 2007. C'est une sorte de chaînon manquant entre une partie du catalogue en France de Panini Comics et celui de iComics, puisqu'on y trouve aussi bien des BD Marvel que Scott Pilgrim, Archie, Rick et Morty ou les Tortues Ninja, qui sont d'ailleurs là-bas l'une des meilleures ventes. Comme il faut est aussi l'éditeur russe de Walking Dead. Côté Marvel, il publie des héros tels que Spider-Man, Daredevil, Black Widow, Hawkeye, Deadpool, Miracle Man, Wolverine, Ghost Rider, Silver Surfer, Elektra, Miss Marvel ou Miss Hulk. On trouve chez Comme il faut quelques titres dits du Miller World et du Dark Horse comme Black Hammer. L'éditeur a également une gamme de fascicules dits Classics qui permettent aux lecteurs russes de découvrir les premières apparitions vintage des héros Marvel, comme par exemple le numéro de Tales of Suspense où apparaît pour la première fois Iron Man. Mine de rien, une partie du catalogue de Comme il faut peut surprendre. Disons que ce ne sont pas forcément les séries Marvel que l'on imaginait arriver en priorité en Russie, puisqu'on trouve par exemple les épisodes classiques d'Iron Man, ceux de l'époque anticommuniste des années 60, mais aussi des séries comme Black Widow, ou un titre qui s'appelle Zimi Zolda, traduisait le Winter Soldier. et on ne peut pas vraiment dire que dans ces BD, la Russie a toujours le bon rôle. Alors bien sûr, c'est à prendre avec des pincettes, puisque Black Widow ou le Winter Soldier sont dépeints comme des victimes du régime soviétique. Mais quand même, n'étant pas russophone, je serais bien incapable de vous dire si les dialogues ont été conservés ou si l'histoire a été modifiée. Sans doute que le calcul de comme il faut, pour des séries comme Black Widow ou Winter Soldier, est de privilégier des personnages qui, d'une façon ou d'une autre, ont des attaches historiques avec la Russie. Mais si je vous ai listé ces personnages et ces BD plutôt que de vous dire tout bêtement que comme il faut avait fait main basse sur le catalogue Marvel, c'est que ce n'est pas le cas. Dans le marché russe, il n'y a pas d'éditeur exclusif de Marvel. La situation est semblable à ce qu'on a connu en France quand Marvel était publié aussi bien par les éditions Lug à Lyon que chez Aridiartima à Tourcoing. Et si vous ne savez pas de quoi je vous parle, je vous conseille de vous replonger dans un épisode récent d'Aventure Fiction où j'interviewais l'ancien rédacteur en chef d'Artima. Donc dans les années 80, il y avait différents licenciés Marvel en France. Sauf qu'en Russie, les choses ont pris une dimension plus folle et qu'il semble y avoir eu jusqu'à une dizaine d'éditeurs concurrents publiant du Marvel. Alors ce chiffre comprend sans doute l'édition de Hardbook. Les plus attentifs d'entre vous auront compris que dans le catalogue comme il faut, un certain nombre de héros Marvel sont absents. C'est tout simplement parce qu'ils sont ailleurs. À Moscou, la boutique Shukengeek, je crois que ça se prononce comme ça, a commencé par vendre des BD et s'est associé avec l'éditeur local Jellyfish Jam pour récupérer des licences américaines comme les Avengers, les X-Men, les Gardiens de la Galaxie, les Thunderbolts, Captain Marvel ou Ant-Man. Jellyfish Jam publie également les gros crossovers Marvel tels que Infinity War ou Age of Ultron, mais aussi certains titres indés. Et c'est un peu comme si en France, les boutiques Album Comics ou Pulp éditaient en direct une partie des revues Marvel. D'autres noms seront très familiers aux lecteurs français de comics, puisqu'en Russie, jusqu'à ces tout derniers mois en tout cas, on trouvait la version russe de la collection Marvel de Hachette, publiée là-bas tout bonnement par Hachette Russie, une filiale du groupe français, forcément, avec le concours de Panini. Cette alternative permettait aux lecteurs russes de rattraper leur retard avec des traductions russophones, des Ultimates, de Black Panther, d'Adam Warlock ou de Thor, dans des volumes similaires à ceux qu'on trouve en kiosque en France. Hachette a également pris des parts chez un éditeur russe, Azbuka Atticus, qui publie une partie des comics DC, en particulier Batman, et les personnages annexes comme Harley Quinn. Azbuka Atticus a été récemment, à ce titre, l'un des partenaires de l'anthologie internationale Batman The World. Et là aussi, ce catalogue donne parfois des télescopages étonnants, puisque dans les aventures de Batman, ces dernières années, le personnage de KJ Beast a joué un rôle dans la série, sans censure apparente, alors qu'on ne peut pas vraiment dire qu'il donne une bonne image des Russes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la plupart de ces revues et albums s'adressent à un public un minimum sensible à la culture occidentale. Ce qui, sans vouloir faire de clichés, n'est pas forcément le cas du grand public russe. C'est d'ailleurs à distinguer de la réception faite aux films basés sur ces mêmes héros. En Russie, les comics américains traduits correspondent à une certaine forme de contre-culture. Et en un sens, les gens qui lisent des comics à Moscou ont un peu le même profil que les lecteurs américains qui lisaient dans les années 70 des comics Marvel plutôt critiques envers le Vietnam et la présidence Nixon. Alors il se pourrait que parmi vous, quelques curieux ou collectionneurs compulsifs, en entendant parler de ces éditions russophones, se jettent sur leur ordinateur pour essayer d'en commander quelques exemplaires pendant qu'il est temps. Et je vous le déconseille grandement, parce qu'en un sens, il n'est déjà plus temps, que les comptes sur des plateformes comme Amazon d'une partie de ses éditeurs ont déjà été désactivés pour des raisons de boycott, et que même si on arrive encore à trouver quelques rares sites marchands qui les proposent à la vente, vous devez vous souvenir que les opérations financières entre la Russie et l'Occident se sont durablement compliquées. En gros, c'est un coup à ne jamais revoir votre argent. Mais que les comics circulent avec plus de succès en Russie et dans les pays russophones ne les dispense pas totalement de tout problème. Par exemple, en 2019, la série Deadpool Max de David Lafamme et de Kyle Baker, édité en Russie par Comme il faut, a été accusée d'enfreindre les lois concernant la promotion du nazisme. Quand bien même Deadpool affronte le Baron Zemo et une sorte d'hybride entre un mouvement nazi et le Ku Klux Klan, quand bien même Deadpool gagne à la fin et qu'on ne peut pas vraiment dire que Zemo en ressorte valorisé, le psychologue Vali Ngalivetch, sorte de Frédéric Vertam russe, a décrété que cette BD faisait de l'apologie du nazisme. Et ça, que Kyle Baker soit accusé d'être pro-nazi, je pense que ça a dû le faire rigoler. Et de son côté, l'imprimeur a donc refusé de s'en occuper. Finalement, l'album est paru après que Comme il faut ait retiré toute l'histoire concernant Zemo et les nazis. Puisqu'on parle de super-héros et de Russie, certains penseront peut-être utile de mentionner Guardians, film du réalisateur arménien Sarik Andreatian, sorti en 2017, qui visait à produire une sorte de version russe des Avengers sur grand écran, mais avec un budget moindre. Le projet était pensé pour se rentabiliser avec les ventes à l'international. Mais finalement, ce fut un bide. Si on cherche vraiment de la production locale de super-héros, il y a mieux. Depuis 2012, l'éditeur de BD Bubble a choisi une approche voisine avec beaucoup plus de succès, en publiant des BD russes inédites qui sont d'inspiration américaine, telles que Bezo Boy, Red Furia ou surtout Major Grom, que vous connaissez peut-être car ce dernier a été adapté à l'écran en 2021 chez Netflix, avec en VF le titre plus explicite Dr. Pest. Mais ces derniers temps, la carrière cinéma de Major Grom a été rattrapée par l'invasion de l'Ukraine, Netflix décidant de suspendre toutes ses futures productions liées à la Russie. Un éventuel deuxième film consacré au héros masqué de Bubble est donc, pour l'instant, aux oubliettes. Globalement, que ce soit les BD, la présence de comic shop ou avec les sorties de films, la culture des comics en Russie a été assez forte pour initier dès 2014 une convention Comic-Con Russia organisée avec le soutien de cet éditeur, Bubble. Et forcément, ces dernières années, ce rendez-vous était quelque peu malmené par l'épidémie de Covid. En 2021, d'ailleurs, le festival a été annulé et reporté en 2022. Mais avec le contexte international qui est ce qu'il est, la tenue de l'édition 2022 semble très hypothétique. Alors je viens de vous parler pendant un long moment de la scène comics en Russie, de façon non exhaustive d'ailleurs, et vous pourriez être tenté de me rappeler que le présent podcast est supposé évoquer aussi la place des comics en Ukraine. Mais c'est que les deux réalités sont étroitement liées. Il faut bien comprendre que les éditeurs russes de comics ne produisent pas seulement pour la Russie, mais diffusent aussi leurs BD dans les pays des alentours qui ont une population russophone. Jusqu'à récemment, les comics qu'on pouvait trouver dans les librairies BD de Kiev, et donc dans le reste de l'Ukraine, étaient donc celles produites depuis la Russie. Ce qui crée une situation plutôt complexe avec des interdépendances. D'abord, la guerre du Donbass en 2014 a plus ou moins directement créé une crise économique en Russie et provoqué un effondrement du rouble, causant par la même occasion une envolée des prix des bandes dessinées. C'est-à-dire que forcément, si d'un seul coup il vous faut beaucoup plus de roubles pour payer vos contrats avec des éditeurs de comics américains qui, eux, voient les choses en dollars, ça change les choses. Et à cause de ce qui se passait dans le Donbass, le prix des comics russophones s'est donc envolé. C'est subitement devenu un hobby plus coûteux et moins populaire. Mais dans l'autre sens aussi, les choses se sont compliquées. Car si les comics américains peuvent être vus comme une forme de contre-culture par le public de Moscou, en Ukraine, ils étaient vus d'abord comme des publications russophones émises depuis la Russie, pour ainsi dire, des publications russophiles. Or, en décembre 2016, l'Ukraine a décidé d'une restriction des importations de livres russes. À partir de ce moment, il a fallu un permis spécial pour importer des publications russes dans le pays. Le temps que les permis soient étudiés et accordés, les bandes dessinées traduites en Russie ont mis de nombreux mois avant de retrouver les points de vente en Ukraine. L'effet immédiat a été de créer une grosse demande de production locale face à ce vide, et la BD ukrainienne en a profité avec plus d'albums lançés sur le marché. Une partie d'entre eux s'apparentait plus aux romans graphiques tels qu'on les trouve en Europe occidentale, mais l'autre partie, elle, privilégiait la science-fiction, le steampunk et des uchroniques qui donnent la part belle aux guerriers cosaques. Et donc forcément, vous avez des combos, des récits de science-fiction avec des cosaques steampunk. On pourra se tourner par exemple vers la production de l'éditeur ukrainien Volia ou The Will Production, qui se situe quelque part entre Image Comics et le catalogue Soleil. Au bout de quelques mois, les comics traduits en russe, désormais équipés de permis, sont revenus sur les étalages des comic shops de Kiev. Mais l'événement témoigne de la situation singulière des comics dans cette partie du monde, considérée comme une contre-culture en Russie, mais vue d'un mauvais œil en Ukraine, puisque traduit et édité depuis la Russie. À Moscou, Batman et le Soldat de l'Hiver peuvent être vus comme des produits venant des États-Unis, tandis qu'en Ukraine, on pouvait les considérer comme des produits émis depuis la Russie. Et encore, on parle d'une perception qui remonte à avant l'invasion de février 2022. Cependant, comme en Russie quelques années plus tôt, le public des films, des comics et des jeux vidéo a été suffisant pour mettre sur pied, à partir de 2018, une Comic-Con Ukraine. Si elle aussi a dû faire avec les aléas de la Covid, elle a eu plus de chance en termes de calendrier puisqu'elle a pu se tenir en septembre 2021, c'est-à-dire en septembre dernier. Et finalement, c'est à mon sens la raison de vous raconter tout ça. Rendez-vous compte qu'en septembre dernier, à Kiev, des gens se réunissaient pour partager leur passion de la culture geek et que ces derniers mois, l'édition suivante était déjà annoncée pour septembre 2022. Le but de cet épisode n'est pas spécialement de pleurer sur les aléas de la diffusion des comics dans cette partie du monde, mais bien de vous expliquer qu'à 3 heures de la France, il y a des gens qui, il y a quelques semaines encore, vivaient leur passion des comics dans des librairies aujourd'hui rasées par les bombardements. Les comics, ce ne sont jamais que du papier. Mais contrairement aux héros des comics, les lecteurs, et en l'occurrence les lecteurs ukrainiens, ne ressuscitent pas dans le crossover suivant. Et pour en revenir à notre récit, le paradoxe ultime, c'est que les lecteurs russophones, qu'ils soient de Russie ou d'Ukraine ou d'ailleurs, étaient unis il y a quelques mois à peine par une culture commune qui leur proposait les aventures de Black Widow ou du Winter Soldier. Pendant des semaines, le sort de l'édition de comics en Russie a semblé incertain. Plusieurs éditeurs ont d'ailleurs purement et simplement cessé de communiquer sur les réseaux sociaux au moment de l'attaque de l'Ukraine. Il n'est pas toujours évident de savoir si c'est de façon délibérée ou si simplement les éditeurs concernés ont perdu l'accès à leur profil à mesure que la Russie rendait certaines plateformes inopérantes dans les jours suivants. Le 20 avril 2022, et c'est cette nouvelle que j'attendais pour finaliser ce podcast, Marvel a écrit à tous ses licenciés russes pour leur signifier la suspension immédiate des contrats en cours. C'est-à-dire que plus aucun matériel, plus aucune histoire Marvel ne sera vendue à des éditeurs russes. Avec le délai des publications, des impressions en cours, c'est-à-dire avec le matériel qui avait déjà été acheté et fourni et qui peut continuer à être imprimé par les Russes, les dernières publications Marvel russophones devraient paraître dans le courant de l'été 2022. Sous condition bien sûr que les licences d'origine américaine ne fassent pas l'objet d'ici là d'un boycott de la part des autorités russes, ce qui ferait que les éditeurs locaux seraient dans l'incapacité de commercialiser le matériel qui leur reste. Ou allez savoir, il est possible aussi que le psychologue dont on parlait tout à l'heure se réveille un matin et décide que tout ça, finalement, c'est de l'incitation au nazisme. Via sa messagerie Telegram, Ivan Tcherniazki, le propriétaire de Shukijik, le comic shop de Moscou dont je vous parlais tout à l'heure, explique que la lettre de Marvel est un coup presque fatal porté à l'édition de BD étrangères en Russie. Mais il se raccroche à l'idée que si la porte des comics se referme, les mangas, eux, restent encore commercialisables. En tout cas pour l'instant. Du côté de comme il faut, les propriétaires sont plus optimistes en un sens, puisqu'ils considèrent qu'il est impossible de rompre un contrat du jour au lendemain, expliquant que du coup des négociations sont engagées avec Marvel pour essayer de prolonger ce fameux contrat. Mais on voit mal comment comme il faut pourrait, depuis Moscou, forcer Marvel à continuer à lui fournir des fichiers. Même si je n'ai pas trouvé ce même genre de déclaration concernant DC Comics et les labels indépendants, il paraît évident que Marvel n'est pas le seul à entamer ce mouvement de retrait et que les autres labels américains, eux aussi, préfèrent s'en aller. On pourra quand même se demander au passage pourquoi les studios de cinéma ont mis en gros une semaine à interdire les films et pourquoi les éditeurs de comics, eux, mettent un peu plus de 2 mois à gérer la situation et à envoyer une simple lettre. Après, il y a aussi toutes les contradictions de la situation qui font que retirer les comics de Russie, c'est aussi les retirer à des gens qui étaient, par la force des choses, les plus enclins à regarder l'Occident d'un œil ami. En même temps, il faut bien voir qu'aujourd'hui en Russie, on n'a pas le droit d'utiliser le mot « guerre » pour parler de ce qui se passe en Ukraine, que c'est passible de prison, et que même des personnes ont été arrêtées parce qu'elles portaient sur les doigts du vernis à ongles bleu et jaune, qui correspond donc au drapeau ukrainien. Donc je pense que la lecture même des comics, se trimballer avec un Marvel dans la rue, à courte échéance, de toute façon, ça va vite devenir très problématique. Je vous le répète, les comics en eux-mêmes ne sont pas importants dans cette histoire. Ils sont un thermomètre, parmi tant d'autres, de la situation globale. Encore que, derrière les comics, il y a des gens. Et là, je ne vous parle plus des lecteurs ou des éditeurs, mais bien des artistes qui créent ces bandes dessinées. Donc assez rapidement, l'éditeur ukrainien dont je vous parlais tout à l'heure, The Will Production, que vous pouvez trouver via leur site anglophone thewill.com, je vous mettrai le lien dans la description, a mis sur pied une collection intitulée War, permettant aux auteurs de BD de s'exprimer sur l'invasion. L'idée est de vendre la licence de ces BD dans différents pays, afin que le bénéfice aide l'effort de guerre. Je précise, par effort de guerre, il faut bien comprendre que les bénéfices n'aident pas spécialement l'humanitaire, mais financent tant que possible l'armée ukrainienne, avec tout ce que cela implique. Mais ceux qui veulent aider l'éditeur et les auteurs à vivre de leur travail peuvent également le faire via une page Patreon de The Will. Et puis se pose aussi la question de la réaction des comics, ceux produits en Amérique, ceux qui, dans les années 40, montraient de l'empathie envers les victimes d'Odessa ou de Stalingrad. Alors oui, il existe une longue tradition de comics en prise directe avec les événements du monde, mais la chose est devenue plus complexe à mesure que le marché américain s'est orienté vers les librairies. Les principaux éditeurs ont désormais conscience de produire pour une forme de postérité, avec des BD qui seront relus sous forme d'albums des années plus tard, ce qui les rend en un sens moins réactifs. À plus forte raison si on parle d'un événement qui ne concerne pas directement l'Amérique. C'est-à-dire qu'avant de se prononcer sur les événements en Ukraine ou d'inventer un pays fictif comme la Sokovie qui lui ressemblerait mais où tout le monde comprendrait de quoi on parle, Marvel, DC et les autres vont probablement attendre d'abord de voir comment la situation perdure dans le pays, sur le moyen ou sur le long terme. Ce à quoi on peut s'attendre par contre, c'est un retour rapide à l'utilisation d'adversaires russes, d'autant plus facilement qu'ils sont déjà nombreux. Quoi qu'il arrive en Ukraine, en effet, il semble que l'image de la Russie en restera durablement marquée. Même si d'un coup de baguette magique, la guerre en Ukraine s'arrêtait dans le quart d'heure qui vient, l'opinion publique occidentale mettrait longtemps à oublier cette invasion. Et ça encore, c'est si la guerre s'arrêtait là tout de suite, ce qui n'est pas vraiment au programme. KG Beast, Omega Red et les autres vont donc probablement reprendre du service, mais cette fois, au lieu d'être montrés comme des ex-soviétiques vivant dans le passé, tout porte à croire qu'ils seront bien identifiés comme des Russes qui sont en prise avec le présent. Et puis, il y a Poutine lui-même, et là, force est de constater que les comics n'ont pas attendu ce début d'année 2022 pour commencer à lui tailler le portrait. Dans leur série Doomsday Clock, publiée entre 2017 et 2019 aux USA, et disponible en France chez Urban Comics, Geoff Johns et Gary Frank livrent un récit qui se veut à la fois comme une suite et une déconstruction du Watchmen d'Alan Moore et Dave Gibbons, dont je vous ai parlé bien plus tôt dans cet épisode. Dans Doomsday Clock, bon nombre de situations sont renversées. Cette fois, au lieu de montrer une guerre froide, un monde au bord du gouffre, symbolisé par un Nixon prêt à appuyer sur le bouton rouge, Johns et Frank renversent la vapeur. Superman va jusqu'à Moscou, où il rencontre un Poutine convaincu que les USA conspirent de longue date contre lui. Dans Watchmen, la Troisième Guerre mondiale était empêchée en montant une sorte de faux attentat extraterrestre au centre de New York. Dans Doomsday Clock, tout bascule dans l'autre sens. Et parce qu'une sorte d'attentat intervient sur la Place Rouge, Poutine est à deux doigts de déclencher la Troisième Guerre mondiale, malgré l'intervention de Superman. Et si vous faites partie des lecteurs de Doomsday Clock, que vous aimiez ou pas la série, ça n'est pas la question. Mais la manière qu'a Geoff Johns d'écrire, de scénariser Poutine, elle est pour ainsi dire prophétique. On peut relire ces pages et y trouver comme des éléments de langage que le leader russe ressort aujourd'hui dans un total premier degré. Je ne suis pas en train de vous dire que Geoff Johns est une voyante. Il a simplement fait le job, pris les éléments de langage de Poutine quand il écrasait les Tchétchènes ou les Syriens, et les a adaptés pour écrire de façon réaliste ce que dirait un Poutine à deux doigts de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Et Johns a tellement fait le job qu'aujourd'hui on y est et que c'est raccord. Et ça encore, Doomsday Clock, c'était avant l'invasion actuelle. On imagine ce que des auteurs tels que Eric Larsen ou Garth Ennis pourraient faire, à terme, avec cette nouvelle donne en Russie et en Ukraine. L'autre influence du conflit, elle est matérielle. Vous ne la verrez peut-être pas passer dans les cases de BD, réduite au rang de parabole, mais ses effets sont bien réels. Déjà, la crise du Covid avait eu un impact totalement destructeur sur le marché américain des comics, les confinements faisant voler en éclats la distribution des fascicules. En l'espace de quelques semaines, DC Comics, le numéro 2 du marché, a été obligé de quitter le distributeur principal et de chercher une alternative, baissant au passage la voilure du nombre de ses publications. La plupart des gros éditeurs de comics ont dû revoir leurs accords de diffusion. Et depuis, la crise des matières premières, à commencer par le manque de papier, a encore accentué les choses. Aujourd'hui, et c'est plus évident si on regarde DC, où plus du tiers des séries concernent Batman, des personnages annexes de Batman, les éditeurs américains doivent se recentrer et limiter la prise de risque. Et donc il semble évident que dans les mois à venir, la crise ukrainienne va participer elle aussi à l'envol du prix de l'énergie et donc des coûts de production. C'est-à-dire que non seulement le papier va continuer d'être rare et plus coûteux, mais qu'en plus les imprimeurs vont payer plus cher l'énergie pour faire tourner leurs machines et payer plus cher le transport des comics. Et vous pouvez aussi appliquer le même raisonnement aux goodies. Produire des statuettes de vos personnages préférés va coûter plus cher. Et les transporter jusqu'aux boutiques aussi. Historiquement, les comics se sont plutôt bien portés pendant les grands conflits ou les crises économiques, car ils étaient une sorte de valeur refuge, une source d'évasion pour un prix modique. Les comics valaient dans les années 40 ou jusque dans les années 80 essentiellement le même prix qu'un carambar. Aujourd'hui, les crises sanitaires et énergétiques se succèdent, alors que le tout venant des comics est déjà vendu 4 ou 5 dollars, souvent plus, pour une vingtaine de pages. Et sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais augure, attendez-vous donc à des effets drastiques, tangibles, sur les gammes des éditeurs américains. De facto, la crise ukrainienne aura forcément un effet sur l'édition de bande dessinée, américaine ou autre. Et puis reste la question de savoir si les comics américains vont venir en aide aux populations ukrainiennes et se mobiliser pour des publications à but humanitaire. Et là, vous avez un peu un début de réponse avec ce que je viens de vous expliquer. Les plannings industriels des éditeurs et de leurs imprimeurs étant totalement full, ce n'est pas franchement le moment où certains labels vont chercher à griller un créneau de plus. À ce stade, ce sont surtout des initiatives individuelles qui se sont mises en place. Parmi les premiers créateurs à réagir, on trouve le scénariste David Fur et le dessinateur John Rhodes. Alors, ils sont pratiquement inconnus, mais vous allez voir que le monde des comics est petit et qu'il occasionne des télescopages parfois assez complexes. Fur et Rhodes sont des créateurs associés au mouvement ComicsGate, qui, pour le dire de façon polie, est une frange très conservatrice, très à droite de l'industrie des comics, composée surtout d'auteurs adeptes du « c'était mieux avant » qui considèrent qu'une gauche supposée a amené un agenda politique dans les comics, agenda qui n'existait pas avant dans la BD et qui aurait étouffé la créativité des bandes dessinées américaines. Spoiler pour ceux d'entre vous qui écoutent les épisodes de ce podcast depuis le début, vous savez bien maintenant que les comics sont politiques depuis les années 30, on l'a déjà vu de plusieurs manières. Dans le cas présent, la motivation s'explique puisque David Fur a des attaches en Ukraine où il a vécu et travaillé plusieurs années. Puis il se trouve que Fur et Rhodes, d'abord au sein du petit éditeur Antarctic Press, ont œuvré à ramener des super-héros anciens depuis longtemps tombés dans le domaine public. Et ils en ont tout à fait le droit. Il s'agit de personnages qui n'ont plus de propriétaire légal devant la justice américaine. Alors Fur et Rhodes ont donc ramené une vieille connaissance des auditeurs de ce podcast, le Daredevil originel des années 40, à ne pas confondre avec celui de Marvel, même si, à l'évidence, tous ceux qui ont ramené un jour ce premier Daredevil jouent avec les rapprochements qu'on peut faire ou pas avec le Daredevil moderne. Leur version, d'ailleurs, sort sous le titre Darkdevil, Dark écrit avec un K, donc. Et là, déjà, les choses prennent d'emblée un virage surréaliste, puisque deux auteurs plutôt bien ancrés à droite et membres d'une tendance qui entend lutter contre l'agenda politique caché des comics ont donc ramené ce Daredevil, édité à l'origine par Lev Glazon, membre à l'époque du Parti communiste, et qui distillait dans ses publications sa vision sociale des choses. Une fois que ça s'est dit, on peut considérer que les bonnes volontés et les initiatives sont toutes bonnes à prendre pour aider les réfugiés. Et il faut reconnaître à David Fur, allié à d'autres auteurs de ce milieu de la micro-édition américaine, d'avoir été parmi les premiers à mettre sur pied une opération qui s'appelle Comics for Ukraine, qui consiste à faire financer sur la plateforme Indiegogo des éditions collector de leurs comics dont les bénéfices seront reversés aux réfugiés, et d'ailleurs à des réfugiés de tous bords politiques, j'imagine. Dans le cas de ce Daredevil, les auteurs ont d'ailleurs eu une idée qui n'est pas mauvaise. Le Daredevil du Golden Age porte généralement un costume rouge et bleu. Oui, mais voilà, dans les premiers épisodes, il était habillé en jaune et bleu. Et comme cela correspond au drapeau de l'Ukraine, eh bien Daredevil reprend ses couleurs d'origine. Et donc on a des Américains conservateurs qui se plaignent d'habitude de l'omniprésence de la politique dans les comics, qui se mobilisent, et c'est tout à leur honneur, en utilisant un vieux héros lancé par un éditeur communiste pour mieux venir en aide aux réfugiés ukrainiens attaqués par la Russie. Je vous l'avais dit, cette semaine, on est en plein dessous des cartes. Mais le vrai problème n'a rien à voir avec la politique personnelle ou les paradoxes philosophiques des deux auteurs. L'ennui majeur, c'est qu'on est face à quelque chose qui, qualitativement, tient du niveau fanzine, et qui donc n'a pas su convaincre. À l'heure où j'enregistre ce podcast, la campagne de financement n'a plus qu'une trentaine d'heures avant de se terminer, et elle n'a attiré que 9 contributeurs, pour une somme représentant à peine 30% de ce qui était prévu. Comme c'est du Indiegogo, l'objectif n'a pas besoin d'être atteint pour que l'argent acquis soit versé. Mais enfin bon, comme il s'agissait d'imprimer des comics, on parle d'une somme récoltée de quelques centaines de dollars, sur laquelle la plateforme va prendre sa marge, et l'imprimeur aussi. Au bout du compte, en vérité, tout au plus, quelques dizaines d'euros seront générés pour les réfugiés. Il faut cependant reconnaître à cette initiative d'avoir été l'une des premières à démarrer. On peut évoquer beaucoup plus sérieusement l'anthologie Comics for Ukraine. Et oui, c'est le même nom, il n'y a pas 36 titres possibles quand on se mobilise pour une cause. Lancée plus récemment par Scott Dumbier. Beaucoup plus sérieusement parce que l'autre Comics for Ukraine dont je viens de vous parler était organisé par des créateurs pratiquement inconnus, dans leur coin et sans effort de communication. Là, Scott Dumbier est un éditeur qui a une très bonne réputation et il arrive avec des talents tels que Alex Ross, Arthur Adams ou Chris Sprouse et d'autres noms du même tonneau. Autrement dit, un parterre de stars dont la simple annonce a déjà généré beaucoup de réactions. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que beaucoup d'entre vous avaient entendu parler du projet lié à Daredevil, alors que vous avez plus de chances d'avoir entendu parler de l'initiative de Scott Dunbier, qui ne devrait pas peiner à intéresser beaucoup plus de contributeurs. Et puis, parlons aussi de la France. L'éditeur Hexagone Comics a sorti un numéro de Captain Ukraine, dont la couverture lorgne sur celle de Captain America Comics 1 en 1941. Et pour cet ouvrage, les bénéfices iront à la Croix-Rouge ukrainienne. Citons aussi l'anthologie française Comics for Ukraine. Alors attention, ça se prononce comme les deux projets américains dont je vous ai parlé, mais cela a été lancé avant, et surtout ça s'écrit avec un X à la fin de Comics, et les bénéfices seront reversés plus spécifiquement à l'accueil des réfugiés ukrainiens en Pologne. Si vous ne savez pas où vous procurer ces fascicules, ou s'ils sont déjà épuisés par chez vous, vous avez aussi une solution simple et sans danger. Vous ouvrez un moteur de recherche et vous vous renseignez sur les différentes manières de faire un don à des organisations humanitaires pertinentes en la question. Alors oui, je sais, vous n'aurez pas récupéré une bande dessinée au passage, mais vous aurez fait vraiment une bonne action. Voilà, avant de vous laisser, je vous rappelle que les fans de comics ukrainiens, au mois de septembre dernier, s'amusaient dans les allées de la Comic-Con Ukraine, que leur actualité n'était déjà pas rose, après tout ce qui s'était déjà passé dans le Donbass ou en Crimée, mais que tout en craignant le pire, ils espéraient le meilleur, sans forcément savoir où ils seraient quelques mois plus tard. Aujourd'hui, bien malin, ceux qui sont capables de deviner où nous serons, nous, d'ici quelques mois. Si cet épisode un peu particulier vous a plu, n'hésitez pas à le faire connaître, à le faire tourner, à faire passer le lien, ou à le liker ou je ne sais quoi sur les réseaux sociaux qui ont votre préférence. On se retrouve bientôt dans Aventure Fiction.